Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission du Cercle de lecture de Confluence autour du roman de Yasushi Inoue, Le fusil de chasse. Avec moi pour en parler,
Françoise,
Jean,
Monique.
Alors, quelques mots sur Yasushi Inoue. C'est un écrivain japonais très célèbre dans son pays et qui est né en 1907 et mort en 1991. Dans son pays, la Russie reçut de multiples récompenses. Il a même été, à la fin de sa vie, vice-président du Pen Club International. Enfin bon, donc c'est une célébrité. Et sa vie, s'étendant de 1907 à 1991, lui fait traverser tout le XXe siècle. Et on retrouve chez lui, et en particulier dans ce roman, à la fois le Japon immémorial avec ses rites et le Japon moderne qui est en pleine transformation après les catastrophes du bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Et c'est dans cet immédiat après-guerre que l'intrigue se situe, l'intrigue du fusil de chasse, probablement dans les années 46-47. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, Jean peut-être, peut nous résumer un peu la composition de ce roman et puis l'intrigue éventuellement et nous parler un peu de ce titre, Le fusil de chasse.
Alors, ce qu'il faut d'abord signaler, c'est que c'est un très court roman, on peut dire même une longue nouvelle. C'est un roman, alors on y reviendra, essentiellement épistolaire, qui contient donc des lettres des différents personnages. Et c'est un roman dans lequel les choses vont s'emboîter petit à petit, dès le début. C'est d'abord, au début, un journaliste qui veut renouer avec un ancien camarade et lui propose une place pour un texte dans son journal.
De chasse.
Ce journal qui est un journal sur la chasse. Le camarade, donc, narrateur, qui n'est pas du tout, lui, partisan, pas du tout intéressé par la chasse, par gentillesse, répond par un poème, mais un poème qui ne correspond pas du tout non plus à ce que sans doute attendent les lecteurs. Et finalement, ce poème, qui n'est pas, on pourra le lire, mais qui n'est peut-être pas d'un intérêt absolu, déclenche un autre texte, et ça va être donc l'essentiel du livre. Un troisième homme a cru se reconnaître et écrit au poète, et même va le rendre dépositaire de secrets de sa vie, en envoyant donc des lettres qu'il a reçues.
Alors ces lettres sont les lettres de trois femmes. L'une qui est l'épouse du chasseur, qui s'appelle Midori. Une seconde, Saiko, qui est la maîtresse du chasseur. Et une troisième, Shoko, qui est la fille de Saiko, la maîtresse du chasseur. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avant d'aller plus loin, ça vaudrait la peine qu'on dise un peu qui sont ces trois femmes.
Alors, avant, j'avais envie de lire le poème.
Le poème.
Qui est le point de départ, donc, de toute l'histoire. Donc voilà ce poème. Sa grosse pipe de marin à la bouche, un setter courant devant lui dans l'herbe, l'homme gravissait à grandes enjambées, en ce début d'hiver, le sentier du mont Amagi. Et la gelée blanche craquait sous ses semelles. Il avait 25 cartouches à la ceinture, un manteau de cuir marron foncé, une carabine Churchill à canon jumelé, mais d'où venait son indifférence, malgré son arme de blanc et brillant métal, à ôter la vie à des créatures. Fasciné par le large dos du chasseur, je regardais, depuis ce temps-là, dans les gares des grandes villes, ou bien la nuit, dans les quartiers où l'on s'amuse, parfois je rêve, je voudrais vivre sa vie, paisible, sereine, indifférente. Par instant, change la scène de chasse. Ce n'est plus le froid début d'hiver sur le mont Amagi, mais un lit asséché de torrents, blanc et blême, et l'étincelant fusil de chasse pesant de tout son poids sur le corps solitaire, sur l'âme solitaire d'un homme entre deux âges, irradie une étrange et sévère beauté qu'il ne montra jamais quand il était pointé contre une créature. Alors, le poème contient des allusions qui vont ensuite peut-être avoir du sens dans l'histoire, et notamment tout ce que peut symboliser le fusil de chasse qui donne son titre au livre.
Alors, je voudrais faire noter que ce portrait, c'est ce qui a été publié sur cette revue de chasse, et l'auteur, le poète, était persuadé qu'il recevrait ou des lettres d'insultes, ou en réalité, il n'a rien reçu sauf la lettre de ce personnage qui va nous occuper et qui s'est reconnu, lui, dans ce poème. Alors que l'autre l'avait noté, mais très fugitivement, mais ne sachant pas parler de chasse, il a pris comme personnage celui qui l'avait un peu intrigué. Voilà.
Oui, et alors il faut dire que ce personnage ne correspond pas du tout à ce que sans doute lisent les lecteurs de cette revue cynégétique, puisque il ne présente pas l'image d'un homme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire qui s'est tiré sur des animaux, qui est viril, qui est actif.
Un samouraï, quoi, en quelque sorte.
Et alors. Lorsque le poète a reçu cette lettre, c'est la seule lettre qu'il ait reçue, et cet homme mystérieux dit « Vous les poètes, vous avez un don de double vue, et je suis en admiration, moi qui n'ai jamais lu de poème, maintenant je crois en votre supériorité. » Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va lui confier ses secrets. Et les trois lettres que cet homme au fusil a reçues.
Et que ces trois femmes lui ont envoyées. Alors, peut-on en parler un petit peu de ces trois femmes, Françoise?
Et peut-être l'homme au fusil d'abord, un petit peu. Qui est Josuke. On apprend que c'est un homme d'affaires.
Qui s'appelle Josuke Misuji.
Josuke Misuji, qui vient d'être révoqué. Et qui donc a perdu toute sa vie professionnelle et l'aura qui entoure sa vie professionnelle.
Oui, alors c'est un détail très important. Curieusement, dans ce livre, les détails très importants ne sont pas vraiment présentés comme importants. C'est au lecteur de découvrir tout le sens caché derrière pratiquement chaque mot.
Oui, il est dit quand même, c'est Josuke qui parle, que le détail de ce fusil de chasse est très important. Mais c'est aussi assez énigmatique. On se demande en quoi, dans l'histoire, ce symbole du fusil de chasse est extrêmement important. Et bon, on fait des hypothèses.
On le retrouvera, ce fusil de chasse, manipulé par Josuke, un jour où il est avec sa femme légitime, qui l'aperçoit se reflétant dans la fenêtre devant laquelle elle se trouve, en train de la pointer avec ce fusil, en pensant qu'elle ne le voit pas. Mais c'est vrai que ce fusil est quelque chose d'un peu énigmatique. Je pense qu'il est cette espèce de symbolisme quand même de la virilité dévoyée, à mon avis.
C'est seulement qu'il était très cher, que c'est le Rolls-Royce des fusils, alors que le poète a tout inventé, mais c'était la réalité.
Oui. Alors il faut dire que ce personnage, donc, c'est un personnage qui occupait, jusqu'à une époque relativement récente dans le livre, une position sociale très élevée et qui a sans doute eu des conséquences dans ses relations sentimentales.
C'est pas dit, mais on peut le deviner.
Oui, il y a beaucoup de détails qui montrent qu'on est dans un milieu fortuné et cultivé, ne serait-ce qu'on fait allusion au fait que le héros de l'histoire, Josuke, à une maison pleine de tableaux de maîtres, des
français,
Utrio, Vlaminck, de très
Gauguin.
Belles également porcelaines chinoises.
Oui.
Enfin, voilà. Et le narrateur insiste sur le fait qu'il est assez admiratif de la lettre et de l'écriture. De la lettre que Josuke lui envoie, il trouve qu'il a une écriture extrêmement élégante. Cette écriture japonaise qui est quand même pas à la portée du premier venu, l'écriture traditionnelle. Bon, vous ne voulez pas parler des femmes.
Alors,
je
voudrais
que j'en parliez.
Pardon, est-ce que donc cet homme au fusil, ayant très confiance en poète, lui envoie par la suite trois lettres que lui-même a reçues. Voilà, il faut dire que l'homme au fusil a reçu trois lettres et que ces trois lettres sont données au poète pour connaissance et peut-être pour appréciation. Et il a demandé au poète, à celui qui a écrit ce fameux poème inventé, mais il lui demande de les lire et de les détruire immédiatement après. Mmh. Voilà, donc on rentre dans l'histoire des trois lettres. Voilà,
alors, ces trois lettres viennent de trois femmes.
Alors, la première,
alors, nous y venons.
La première, elle a été écrite par Shoko, qui est la fille de Saiko, la maîtresse de Yosuke. Et cette jeune fille a 20 ans. Elle a été, horrifiée par ce qu'elle a appris, c'est-à-dire la liaison secrète de sa mère et de Josuke. Et elle demande à celui-ci, enfin, elle dit à celui-ci qu'elle ne veut plus le voir.
Il était en quelque sorte son parrain, oui. Et il les a soutenus toutes les deux constamment. Mm-hmm. Et il s'est occupé aussi de tous les rites funéraires
concernant
Saiko.
Oui.
Alors Saiko...
Voilà. Shoko, disons simplement peut-être aussi que sa mère a été mariée et a divorcé d'avec son mari qui s'appelle
Kadota.
Et qu'elle ne lui a jamais révélé les raisons du divorce, qu'elle lui avait promis qu'elle le lui dirait le jour de son mariage. Et elle ne le saura pas.
Elle ne le saura pas.
Y a un point très important avant d'entrer dans les personnages, c'est que ces trois lettres arrivent après la mort de ce que j'appellerais l'amante. Mmh. Donc chacune des femmes intéressées à cet homme lui envoie une lettre et aucune des trois ne sait ce que disent les autres. Enfin, elle pense que c'est une lettre personnelle. Il n'y a que l'homme au fusil qui reçoit, qui a les trois lettres en parallèle, mais ces trois lettres sont écrites post-mortem et deux vont tenter d'expliquer le pourquoi l'amante a donné la mort. Voilà, donc alors, c'est pourquoi la première, la jeune fille, la fille de la morte, en fait, va connaître le passé de sa mère.
Je vous propose de nous arrêter un petit peu dans ces biographies compliquées pour écouter un texte, une chanson de Michel Delpech qui a deux titres, qui s'appelle Le Chasseur, qu'on trouve aussi sous le titre Les Oies Sauvages, et qui me paraît une estampe japonaise.
Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude.
Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les tombes, soudain j'ai vu passer les oies sauvages.
Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages.
La forêt chantait, le soleil brillait.
Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade.
Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les tombes, soudain j'ai vu passer les oies sauvages.
Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages.
La forêt chantait, le soleil tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut.
Voilà, alors nous quittons Michel Delpech et ses oies sauvages pour revenir à cette histoire d'amour et de mort et d'incommunicabilité. Mais revenons à ces trois femmes qui ont écrit toutes les trois, sans le savoir, une lettre au même homme, au même moment.
Alors, cette histoire de lettres donc envoyées par chacune de ces femmes illustre, il me semble, un point très important du livre, qui est l'incommunicabilité. Ces personnages ne sont pas capables de de se positionner frontalement par rapport à un interlocuteur. Et c'est la jeune fille, donc dans la première lettre, le dit très précisément. D'abord, sa mère lui a dit qu'elle avait écrit un journal et elle le lui a confié pour qu'elle le brûle, mais bien entendu, elle ne l'a pas brûlé, et c'était sans doute l'intention aussi de la mère, elle n'aurait pas été obligée de lui dire que elle tenait un journal, etc., et qu'il fallait le brûler. Donc, elle a gardé le journal, elle a lu le journal, et quand elle doit écrire sa lettre, elle dit ceci: en cachette, j'ai lu son journal. Si je devais vous dire ceci de vive voix, comme cela me serait difficile, sans compter ce que ma tentative pourrait avoir de pénible. Il me serait sans doute impossible de vous adresser la parole sans incohérence. Et il me semble que ça, c'est très important, cette dernière formule. Les personnages essaient de mettre de la cohérence dans ce qui en est dénué totalement, hein, de cohérence. Ils ne savent pas exactement qui ils sont, comment se définir au plus profond d'eux-mêmes. Et le fait de passer par la lettre leur permet de prendre peut-être une certaine distance par rapport à ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes.
Et j'ai trouvé ça assez japonais. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont j'imagine cette psychologie japonaise soucieuse du paraître, de la face, peut-être plus que nous, occidentaux. Enfin, du moins, c'est peut-être un cliché que j'ai. C'est difficile d'avoir l'air, de savoir. Enfin, je pense qu'elles se sont cachées derrière cet écran. Monique.
Oui, je voulais également préciser que dans chacune des trois lettres, la jeune fille, la femme légitime et celle qui après va se suicider, vont écrire pour illustrer les causes du suicide. Et les deux premières, soit la fille, soit la femme légale, proposeront une théorie qui se révélera fausse. En fait, il n'y a que la lettre finale de la femme qui s'est suicidée qui va expliquer pourquoi elle s'est suicidée. Donc ça, c'est très important
enfin,
aussi.
Ne pas l'expliquer, nous laisser enfin, subodorer.
Donner une explication.
Une explication indirecte, enfin.
Oui, mais l'explication...
C'est le lecteur qui doit tirer la...
Mais chaque femme a sa propre théorie. Qui en réalité va, enfin au moins pour les deux premières, va se révéler fausse.
Alors peut-être qu'on pourrait quand même continuer à parler de Saïko, dire un peu qui était Saïko et dire un peu qui était Midori.
Alors Midori, Françoise, c'est la femme légale de Josuke. Elle s'est mariée avec lui très jeune, je crois qu'elle avait 20 ans. Et sitôt après leur mariage, elle a découvert l'infidélité de son mari avec sa cousine, puisque Saïko, la maîtresse, est aussi sa cousine.
On peut imaginer que ce mariage, comme ça se faisait à la japonaise à cette époque-là, est un mariage arrangé par les familles.
Oui.
Mais je pense que Midori, quand même s'il s'agit d'un mariage arrangé, elle est amoureuse de cet homme.
Elle est amoureuse de son mari, et d'ailleurs, la révélation de l'adultère la plonge dans une profonde douleur. Elle dit qu'elle est devenue presque folle, Et puis qu'après, la jalousie s'est apaisée et elle a décidé, puisque son mari la trompait, de tromper son mari. Elle a eu une vie assez émancipée, il faut le remarquer. Je crois qu'elle se sort des codes de bienséance du Japon. Elle a eu plusieurs amants et elle a mené une vie très libre. Et également, que dire d'elle ?
Et en faisant un peu parler d'elle.
Oui.
Moi, je pense qu'elle cherche aussi à le ridiculiser. Enfin.
Mais un point important, elle n'a jamais dit à sa cousine qu'elle savait.
Oui.
Ça, c'est très important.
Oui. Ce que je voulais dire, mais ça m'est encore sorti de l'esprit. Oui, c'est qu'elle a, malgré tout, et c'est dit à plusieurs reprises, une intense joie de vivre. C'est une femme qui a de la vitalité et qui fait des choses.
Qui aime la fête.
Qui n'est pas aussi passive, disons, que peut l'être Saïko. Elle a une vie sociale, elle aussi. Elle entretient des artistes, elle écrit des poèmes.
Oui, et elle, ça se sent, ce côté plus occidental. D'ailleurs, elle aime Paris, elle écoute de la musique française, des chansons françaises. Par son écriture, l'écriture de sa lettre est par certains côtés un petit peu vulgaire, alors que l'écriture de Saïko et l'écriture de la fille sont beaucoup plus léchées, beaucoup plus tenues.
Ça vient peut-être du fait qu'elle voulait être provocante, enfin qu'elle voulait provoquer le destinataire. Alors moi, je suis plus sévère vis-à-vis de ce personnage, que je trouve essentiellement, intéressée par... elle est vraiment, il me semble, très très intéressée par le fait que son mari a eu une position sociale très élevée. À partir du moment où, après la guerre, il fait partie des gens qui ont subi une épuration, il n'a plus de statut social intéressant, et donc peut-être qu'il n'est plus non plus tellement intéressant pour elle. Par ailleurs, quand elle lui annonce qu'elle
le quitte,
elle le fait avec une espèce de, de raffinement...
cruel.
Raffinement cruel. Et elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle connaît les codes de l'esthétique, du bon goût, etc. Et que lui, finalement... c'est peut-être, pour parler vulgairement, un gros plouc.
Et ça, notamment c'est quand même un plouc qui achète du Gauguin.
Oui, mais parce que il le faut dans son milieu, sans doute.
Oui, mais enfin, il aurait pu plus mal choisir.
D'une manière très, je trouve, que sa cruauté a atteint un point culminant à la fin, lorsqu'elle lui dit qu'elle va partir, mais qu'elle a bien rangé ses costumes et qu'elle a mis des cravates assorties. Bien assorti, qui prouve qu'elle a du goût et que lui n'en a pas du tout.
Ceci dit, ça peut être un dernier signe d'amour aussi avant de le quitter.
Moi, je pense que c'est au contraire un signe d'une grande cruauté.
Dans cette affaire, hommes et femmes, nous avions des points de vue très différents.
Mais aussi, elle lui fait payer très cher, parce qu'elle sait déjà, en demandant la séparation, elle ordonne presque deux maisons. Elle va prendre une qui est très chère, qu'elle va vendre pour pouvoir vivre très confortablement. Elle va en prendre une autre où elle va habiter, elle fera des fleurs qu'elle vendra. Donc, dans son esprit, elle est très, très organisée. Et en passant, oui, elle suggère à son mari de regarder les cravates, mais elle lui suggère également de se construire un four pour faire cuire les porcelaines qu'il aime tellement. Donc, elle lui fait payer très cher sa faute.
Oui, il y a une espèce d'ironie cruelle, moi, que je ressens comme ça.
Elle s'en sort très bien, en fait. Elle va repartir. Elle a peut-être souffert au début de voir l'infidélité de son mari, mais elle dit bien qu'elle n'a pas tenté de lutter, elle ne l'a pas dit à sa cousine, parce que sa cousine était une femme très, très belle, peut-être plus belle qu'elle, et qu'elle avait une culture énorme, qu'elle savait reconnaître un bon café d'un mauvais café, etc. Privilège,
d'autres
qu'elle-même ne possédait pas. Donc elle se sentait inférieure par rapport à cette cousine qui lui avait pris son mari.
Je pense que c'était la jeune fille innocente qui épouse quelqu'un que ses parents lui ont trouvé et qui a comme cousine une femme qui a été marié et donc qui a une expérience, et je pense qu'il y a ce complexe aussi, au-delà de la beauté, de l'élégance,
enfin,
etc.
Il n'avait que 4 ou 5 ans de plus. Je sais bien que ça peut compter, mais enfin, c'est pas...
Oui, mais enfin, voilà, il y a l'expérience.
Donc, il devait être plus belle qu'elle.
C'est quand même ce livre, la narration quand même de la passion, vécue d'une façon extrêmement différente par les personnages, qui peut-être se connaissent mal eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce que dit Saïko, elle a l'impression qu'elle ne s'est découverte, elle n'a découvert le deuxième être qui était en elle, que tout à fait à la fin, ce deuxième être dont Josuke lui avait donné l'idée un jour où ils étaient en train de visiter un laboratoire qui élevait des serpents pour leur venin. Et Josuke lui avait dit « En nous, il y a un serpent ». Et alors, elle a l'impression qu'elle découvre à la dernière minute quel est ce serpent qui est en elle. Et on ne vous dira pas pourquoi, parce qu'après tout, il faut que vous lisiez le livre. Mais on avait envie de vous faire écouter une chanson de Nina Simone, qui parle aussi d'une femme comme ça, qui espère ne pas être incomprise.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Donc vous avez reconnu Oh Lord, Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone, et Être comprise ou incomprise, c'était l'envie de ces trois femmes, mais aussi aimer et être aimé. Et il y a un épisode assez intéressant de ce point de vue. Jean.
Oui, le personnage, là, raconte que quand elle était en classe, on avait donné un devoir sur actif et passif, et la question qui était venue très rapidement, c'est est-ce qu'il est préférable d'aimer ou d'être aimé ? Et si on rapporte cette formule au comportement des personnages féminins, on se rend compte que sans doute, elles ont préféré être aimées. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est bien.
Non. Et peut-être que le seul personnage qui est capable, enfin qui montre qu'il aime, ce serait le personnage masculin.
Oui.
les autres, elles trouvent très bien d'être aimées.
Mais il semble que ce soit un attribut féminin, de préférer oui. d'être aimé.
Voilà,
oui, et en même temps, ça, oui. Dans, si vous voulez, l'opposition active-passif, il y a donc une distribution des rôles qui est un peu...
En fonction des sexes, oui. En fonction des sexes vus d'une façon traditionnelle.
Oui, d'une façon traditionnelle.
Et, et Saïko dit d'ailleurs, même à 16 ou 17 ans, nous semblons connaître déjà d'instinct le bonheur d'être aimé. Voilà. C'est peut-être le rôle qui est dévolu à la femme dans cette société-là. Elle se laisse aimer. Et d'ailleurs, quand elle parle de l'amour que lui a porté Josuke, elle ne dit pas qu'elle l'aimait, elle dit qu'elle a été très heureuse d'être aimée. Elle dit « Les caresses que t'inspirait ta folle passion, par exemple. » Ou encore « J'ai connu le bonheur grâce à ton immense amour. » Elle ne parle pas du sien, elle parle de celui qu'elle reçoit.
Je voudrais ajouter un fait qui est quand même très significatif, c'est que elle écrit cette, enfin, quand elle sait que son amant va recevoir cette lettre, elle sera déjà morte. Et je trouve qu'il y a une chose très intéressante, c'est qu'elle dit qu'une lettre, quand on la lit, ça donne un prolongement à la vie. Pendant 20 minutes, elle va encore exister auprès de son amant. Ça, je trouve ça formidable comme idée.
Mais quand même, ce pauvre type, d'un seul coup, il va perdre sa femme qui divorce, sa maîtresse qui se suicide, et la fille de sa maîtresse qu'il avait prise sous son aile protectrice comme si elle était sa propre fille, qui lui dit « Je ne veux plus vous voir ».
Oui, mais justement, ce fait qu'elle lui dise « Je ne veux plus te voir » me paraît un peu incompréhensible, parce que il a été vraiment toujours très très bon pour elle. Et tout d'un coup, elle veut absolument tourner la page, sans doute. Elle veut
parce que je pense
laisser de côté toute cette histoire.
Elle a l'impression d'avoir été trahie.
Oui, elle ne supporte pas la tromperie, je crois. Voilà. Elle a l'impression d'avoir
été trahie.
Et
puis, dans le livre, enfin, dans les mémoires que lui a confié sa mère pour brûler, mais qu'évidemment, elle a lu, elle voit que sa mère a été d'une certaine façon malheureuse parce que l'autre a aimé cet homme, mais elle avait, avec des remords, des regrets, ça lui a pourri la vie, en fait, sa vie d'amoureuse, le fait qu'elle trompait une autre femme. Et elle disait, si un jour ma cousine, la femme légitime, apprend cette histoire, je dois disparaître.
Oui.
L'idée de la révélation de sa faute lui était insupportable.
Et d'ailleurs, on a été très étonnés parce que dans le livre, constamment, le mot péché, péché revient. Péché, péché, péché. J'étais obsédée, dit Saïko, par le sens du péché. Et à chaque instant, l'image de la mort venait frapper mon regard. Je pensais que si Midori-san venait à apprendre notre amour, je devrais payer mon péché de ma mort. Mais mon bonheur y gagnait encore en profondeur. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette espèce d'ambiguïté.
Péché, je ne pense pas qu'en japonais ça ait le même sens que dans le sens chrétien. Péché, c'est faire une faute par rapport à une éthique morale,
exactement,
civile.
Exactement, c'est l'une de nos lectrices du cercle de lecture, d'ailleurs, qui a l'air d'avoir une culture japonaise assez poussée, insistait là-dessus en disant que c'était la faute, plutôt au sens bouddhiste, qui est quelque chose qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de l'épanouissement de votre moi, en quelque sorte. Enfin, voilà, je ne suis pas branché bouddhiste.
Et d'ailleurs, ça pose le problème de la traduction du japonais. Trouver des équivalences, c'est sans doute très difficile. Et c'est vrai que ce mot péché, il est gênant dans ce contexte-là. Par ailleurs, le personnage que tu as cité, on peut aller jusqu'au bout. Ils se disent, je ne sais même plus quel est celui qui commence, puisque nous sommes dans le péché, allons-y jusqu'au bout.
Soyons
pêchons
de grands pêcheurs.
Carrément, soyons de grands
puisque
pêcheurs.
Puisque nous ne pouvons éviter d'être des pêcheurs, soyons du moins de grands pêcheurs. Et aussi longtemps que nous vivrons, nous tromperons non seulement Midori, mais encore tout le monde. Voilà. Tout le monde, peut-être qu'ils ont réussi, mais Midori, non.
Donc là, on est dans une sorte d'esthétique de la tromperie.
Oui. Et ça a duré 13 ans. Ouais. Et avant la fin, l'amante devait être très fatiguée de supporter cette tromperie et commencer à dépérir. Ça, il faut... Elle ne sait pas, elle n'avait... Voilà,
Alors, pour revenir à la problématique aimer et être aimé, il y a quand même une femme qui, à mon avis, dans le roman, aime. Il me semble. Pour moi, ce serait Midori. Parce que, en dépit de la froideur de son mari, en dépit de l'indifférence qu'il lui manifeste, il ne l'a jamais aimé, visiblement.
Oui, sans doute que non, oui.
Et elle dit, je fus à ce point fascinée par mon mari au début de mon mariage, que même aujourd'hui, après plus de 10 ans, je ne puis résister à son attirance. Et en quelque sorte, elle fait tout, avec sa conduite scandaleuse, pour sortir son mari de son indifférence. Si elle prend des amants, c'est pour que celui-ci, au moins, la regarde, même avec pitié ou réprobation. Tout est mieux pour elle que son indifférence. Et je crois qu'elle l'aime à ce point que quand il pointe le fusil sur elle, qui n'est pas chargé, elle désirerait être tuée par lui. Elle dit... voilà, si ta haine avait fait balle à travers mon cœur, je me serais serrée contre toi. Si j'avais été ta cible chérie, j'aurais été heureuse. Au moins, tu m'aurais manifesté, même en me tuant, que tu m'aimais.
Enfin, il y a quand même dans ce livre, ce qu'on sent tout le temps, c'est une espèce de fatalité de la passion amoureuse. Un peu comme si... ils ne l'ont pas cherché, Saïko et Josuke. Il y a quand même ça, cette espèce de fatalité. Il y a un passage que je trouve intéressant. La première nuit qu'ils passent ensemble, Josuke et Saïko, il y a du vent, ça fait bouger les volets, et Josuke se lève pour fermer les volets. Et à ce moment-là, on aperçoit sur la mer un bateau qui est en train de brûler. Et pour Saïko, tout de suite, ce bateau lui paraît être la métaphore, le symbole, enfin, de sa passion qui va la consumer. Donc oui. il y a quand même cette passion amoureuse très très forte.
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée.
Oui, mais il y a toujours cette volonté d'esthétiser, de compenser par l'esthétique, parce qu'après tout, ce bateau qui est en train de brûler, il y a des gens qui sont en train peut-être de mourir dans ce bateau, mais elle trouve que c'est beau, elle trouve que c'est un beau spectacle. Et donc, c'est une certaine façon aussi, que je trouve gênante chez ces personnages, c'est cette volonté toujours de chercher à rendre beau ce qui n'est pas forcément.
Et il y a aussi un lien qu'on retrouve dans les trois lettres, c'est le fait de ce merveilleux vêtement que l'homme a offert à son amant, qui s'appelle Aori.
Aori. Oui.
Un vêtement qui doit être fait à la main, en soie brodée, avec des choses extravagantes, et qui prouve la provenance sociale et la richesse de celui qui l'offre et de la personne qui le porte. Donc, cette femme qui avait, on a oublié, enfin on n'a pas eu l'occasion de le dire, avait divorcé d'un premier mari.
Et parce qu'il l'avait trompée.
Il l'avait trompée, mais enfin, elle n'a rien fait pour le retenir. Elle ne s'est pas sentie suffisamment aimée, puisqu'il avait eu la faiblesse d'avoir une aventure. Donc, à mon avis, quand elle rencontre celui qui deviendra son amant, elle était déjà libre. Mais son amant lui a offert ce très beau vêtement, et c'est comme ça que la femme légale, de la fenêtre d'un hôtel, la reconnaît, parce qu'elle a ce vêtement très beau. Donc, sa fille, à elle, en parle dans sa première lettre, parce que, très curieusement, la mère, qui était déjà très fatiguée, était sur son lit et avait revêtu cet habit qu'elle n'aurait pas dû porter, puisque c'était un habit de jeune fille. Dans la deuxième lettre, la femme légale raconte qu'elle l'a reconnue à cause de ses beaux vêtements. Et dans la troisième lettre, la femme qui va se suicider porte ce vêtement. Donc c'est encore un signe esthétisant, très japonais.
Enfin. Mais il me semble qu'il a aussi une valeur symbolique, parce que ce vêtement, c'est une enveloppe. Et pour elle, cette enveloppe est ce qu'il y a de plus important, finalement.
Voilà, oui.
Moi, j'ai eu souvent l'impression qu'on parlait de la fatalité de la passion, mais qu'il y avait aussi une espèce de fatalité du rite. Et il y a presque quelque chose de factice dans le fait qu'il faut que ça se passe dans de beaux endroits, Et vraiment, je trouve qu'on ne peut pas lire ce livre sans avoir en tête les estampes japonaises que l'on connaît, avec des pruniers en fleurs ou avec des érables rouges. Je vous lis juste ce petit passage. « Je puis encore me rappeler la beauté du mont Tennozan à Yamazaki, avec son feuillage rouge mouillé par les averses de l'automne finissant. Nous nous abritions de la pluie sous l'auvent du vieux porche, à l'entrée de la fameuse maison de thé devant la gare. Nous levions les yeux vers la montagne qui s'élançait très droite en arrière de la gare et nous surplombait majestueusement. Et subjugués par sa beauté, nous retenions notre souffle. La montagne offrait à nos yeux un luxe de couleurs qui nous retenait plutôt d'en entreprendre l'ascension. 13 ans ont passé depuis lors, mais je garde encore le souvenir ébloui de la magnificence du feuillage et de la façon dont il me fit venir les larmes aux yeux. » Et donc, j'ai l'impression que les personnages, en quelque sorte, ils ont besoin de s'inscrire dans ces estampes, dans ce rite, dans cette esthétique japonaise. On approche de la fin.
Il y a quand même des choses qui sont assez déconcertantes à plusieurs reprises. Et moi, ce qui m'a paru vraiment très déconcertant, c'est lorsque le personnage masculin dit à sa maîtresse « Ne veux-tu pas m'empêcher de tromper Midori ?» C'est quand même... c'est renversant.
Retiens-moi.
Qu'il dise à sa maîtresse de l'empêcher de tromper sa femme, c'est...
Alors en plus, c'était le jour où la maîtresse comptait lui dire qu'elle renonçait à cette relation, mais devant la mélancolie, parce qu'il y a ça, il faut dire ça aussi, que dans ce texte, il y a quand même une mélancolie assez touchante et assez émouvante. Devant la mélancolie de cet homme, elle ne lui dit rien finalement, et ça va durer 13 ans.
Et devant beauté du paysage, l'émotion qu'ils ont vécue ensemble, ils ne pouvaient plus se séparer.
Oui, je voudrais citer donc les paroles d'une participante à notre cercle qui dit que cet homme donc au fusil, en fait, il est désarmé et que ce sont plutôt les femmes qui sont plus armées que lui.
Elle a même été jusqu'à dire qu'il était trois tueuses.
Oui, mais bien retenu.
On n'a quand même pas fini la lettre de la troisième, de celle de la suicidée, qui explique en fait où nous peut comprendre qu'en réalité, l'amour que lui portait cet homme, c'était très bien, elle a été très heureuse, mais qu'en réalité, juste avant, alors qu'elle était au lit et qu'elle n'était pas encore décidée à se suicider, quelqu'un de sa famille lui apprend incidemment que son premier mari, le mari dont elle avait demandé à être séparée pour cause de tromperie, s'était marié.
Venait de se remarier depuis deux mois.
Il s'est passé 13 ans, elle ne s'en occupait pas, mais elle savait qu'il n'était pas marié, donc quelque part il y avait un lien qui les reliait. Elle s'était rendue compte qu'elle y tenait beaucoup plus, parce que lors d'un terrible bombardement qui devait correspondre à Hiroshima ou Nagasaki, son amant l'avait mise à l'abri dans un abri que lui avait construit. Et elle ne rêvait, elle avait très peur, elle aurait voulu aller dans l'abri que son mari avait construit près d'un hôpital. Donc elle s'est rendue compte là qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net chez elle. Mmh. Et c'est quand elle a su que cet homme l'avait complètement abandonnée, alors qu'elle s'en préoccupait pas, elle a décidé de se suicider parce qu'elle s'est rendue compte, en fait, que ce qui importait pour elle, c'était d'être aimée.
Enfin, vous tous qui cherchez des sentiments au carré, passez votre chemin, parce qu'on est... On est dans l'ambivalence, l'ambiguïté.
Oui, il y a quand même un sentiment qui ressort, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la solitude. Tous les personnages sont extrêmement solitaires. Oui. Josuke, tu as lu le poème, il nous est décrit comme un homme solitaire. Je suis devenu un solitaire. Shoko également dit que le monde des adultes, tel qu'elle l'imagine après la trahison de sa mère, est un monde qui lui fait horreur parce que c'est un monde de solitude. Saiko également est en proie à une profonde solitude, même au moment les plus heureux, quand elle est avec son amant dans l'hôtel à Tami. et qu'ils ont décidé d'être ensemble de grands pêcheurs, mais elle dit malgré tout, j'éprouvais subitement, de façon irrépressible, comme le vide de la solitude, une solitude inexprimable, déprimante, une solitude aveugle. Donc même au moment de plus grand bonheur, les êtres sont des êtres solitaires.
Ce qui est très, très pessimiste de la part de l'auteur Inoue, en fait. Les...
Mais il ne faut pas décourager les futurs lecteurs. Le livre est quand même extrêmement riche, fait réfléchir, pose des questions.
Oui.
Et
oui.
Donc on ne peut qu'inciter.
On ne l'épuise pas, on l'a relu.
Et on n'épuise pas le sens.
C'est un livre à énigmes après. Oui. Quand on l'a lu une fois, si on le relit deux fois, on le relirait trois fois parce qu'il ne faut quatre, laisser c'est... passer aucune phrase, aucune assertion.
Beaucoup de choses sont suggérées et on les redécouvre.
Et on essaye de les interpréter.
À la lecture. Oui. Bon, il faut que quand même nous arrêtions là parce qu'on a beaucoup parlé. Je voudrais juste vous faire quelques annonces. Notre prochain cercle de lecture, qui est déjà annoncé, aura lieu le 6 mai à 14h à la Muse. Alors pourquoi à la Muse ? Parce qu'il s'agit de la pièce de théâtre de Michalik qui s'appelle Edmond, dont il a tiré un film, et nous regarderons le film, puis sur place, nous le comparerons avec le texte écrit de la pièce.
Précisons, la Muse à Bressol.
La Muse à Bressol, oui. Alors, ensuite, au mois de juin, le cercle de lecture s'intéressera au roman d'un grand auteur brésilien, Jorge Amado, et il s'agit de Dona Flor et ses deux maris, que je n'ai pas encore lu, mais dont un
alors on peut dire que
nous...
c'est l'absolu opposé du livre dont nous venons de parler. C'est-à-dire que c'est un livre foisonnant, baroque...
Épais, alors que Le fusil de chasse,
c'est
85 pages.
L'opposé.
Voilà.
Typiquement latino-américain.
Voilà, exactement. Ouais. Exubérant.
Alors, deux autres annonces. Le groupe de lecture de Confluence, Dire Lire, présentera sa lecture le 4 avril à 19h à la Petite Comédie sur le thème Chemin au pluriel. Alors pensez à réserver parce que la jauge est limitée. Comme d'habitude, c'est gratuit, mais la participation est souhaitée.
Et nous aurons le plaisir d'avoir notre accordéoniste. Pour la deuxième année.
Pour la deuxième année,
et
oui.
Qui accompagnera nos musiques.
Oui.
Et alors, nos lectures, pardon.
L'autre annonce d'importance, c'est que Christian Garcin, qui a été l'invité d'honneur de Lettres d'automne, et Tanguy Vielle, que vous avez vu aussi, que nous avons beaucoup apprécié, présenteront leur dernier écrit, Travelling, à la Femme Renard, le 10 avril à 19h. Voilà, alors on vous souhaite à tous de bonnes lectures. Jorge Amado, prenez-vous-y un peu à l'avance parce que c'est épais. Et je voudrais terminer cette émission en vous faisant écouter un air extrait de Madame Butterfly de Puccini qui, je trouve, redit toute la mélancolie. Un bel di vedremo, chanté par la classe, pardon pour l'accent italien.